Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
RTVFM.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver avec ce magnifique soleil pour une nouvelle émission RTV Sport. Bien sûr, on est en direct depuis le studio 2 Carpentraster avec mes amis animateurs. Valérie, salut Valérie.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tout le monde.
Et Alexandre.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous.
Je crois qu'il marche pas ton micro, Alex. Non, mais il est cassé. En fait, t'as gagné ce week-end et le micro, il a du mal à accepter. Alors on va y faire un petit échange. Ça va ?
Ah voilà, là c'est mieux.
Voilà, même pour nous c'est mieux.
Ah ben c'est mieux, on l'entend mieux. Hein.
Voilà.
Alors aujourd'hui, on va parler donc d'un art martial très très connu, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion, on va dire, de les recevoir encore. Et on est vraiment ravis de les avoir avec nous ce soir. C'est le club Carpentras Judo,
oui. Hein,
de Carpentras donc, avec son président, Olivier Achard.
Bonsoir.
Ça va Olivier ?
Ça va, ça va. Et content d'être avec vous et merci de nous avoir invités.
Ah ben c'est avec grand plaisir. Et tu es venu avec ton professeur.
C'est ça, Frédéric Durand, avec qui j'ai commencé quand j'étais tout jeune, en 1981. Et il m'a appris les bases du judo, puis petit à petit m'a amené jusqu'aujourd'hui, jusqu'à président du club.
Donc il est très jeune. Ça va Fred ?
Ça va très bien. En parler comme ça, on dirait qu'il parle de vieillard. Non, je suis à peine plus vieux que lui.
Hein. Ça va alors. Et en deuxième partie d'émission, on parlera d'une association qui ne fait pas beaucoup parler d'elle, mais en même temps, elle est très très présente sur le territoire de Carpentras, même je dirais, c'est une association incontournable. Et il s'agit de l'Office municipal des sports de Carpentras.
Bonsoir à tous.
Avec oui. Régis Trottener. Ça va ?
Ah, c'est toujours un plaisir de venir.
T'es un peu rhumé, non ?
On dirait qu'il est enroué, peut-être.
Oui, je suis en train de perdre ma voix.
Ça, c'est à force de traîner sur les terrains.
Ah ben, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, l'Office municipal des sports de Carpentras, donc, c'est une association qui est voilà, très présente, qui est incontournable, même pour les associations sportives du territoire. On développera un petit peu plus en deuxième partie d'émission. Parlons un petit peu des résultats donc locaux et nationaux. On s'étendra pas trop sur l'Orbia 15, hein, Alexandre, hein, parce que
si quand même, on va en parler un petit peu quand même.
Non, il y a Clermont qui a perdu. Je suis vénère.
Oui,
mais
oui.
C'est pas grave. On va parler du local d'abord.
Oui, on va parler du local. On va commencer par le hand parce que j'en ai quand même quelques-uns résultats aujourd'hui. Donc la Nationale 3 donc recevait se déplaçait pardon à Marseille ce week-end et l'a emporté 35-31. Donc, c'était pas un match des plus sensationnels. Bon, l'essentiel, c'était de gagner, ce qu'elles ont fait. Donc, bravo. Et elles sont actuellement deuxièmes au classement général. Et la semaine prochaine, elles recevront Ajaccio. Ça sera le dernier match à domicile. Et si elles gagnent ce match, elles gagnent carrément. Enfin, elles se maintiennent donc en deuxième position et montent en National 2. Donc,
c'est sûr qu'elles montent ? Parce que je sais
si
qu'il y a, il y a les barrages en première
non,
en
si
National 2.
Si elles gagnent le match contre Ajaccio la semaine prochaine, elles montent.
C'est sûr.
Donc voilà.
Bon,
donc,
on leur souhaite bonne chance.
Bien sûr. En championnat de territoire, donc Mazan se déplaçait à Gap et s'est incliné sur le score de 20-39. Chez les moins de 16 ans Méditerranée, Mazan se déplaçait à La Garde et là aussi elle s'est inclinée 24-31. En moins de 12 ans, donc eux se déplaçaient au Thor. Victoire de Mazan contre le Thor 13-12 et défaite ensuite contre Avignon 11-7. Du côté de nos voisins de Carpentras, il faut aussi féliciter donc l'équipe première du handball Carpentras, hein, excellence régionale, qui s'impose face à Port-Saint-Louis sur le score de 38-22 et accède donc en pré-national. Donc c'est super pour nos Carpentrasiens. Donc il faudra qu'on les invite sans faute aussi, nos collègues. Nos
et copains, comme ça, ils amèneront le champagne.
Rapidement à appeler Manu rapidement.
Ouais.
Mais parce qu'ils ont déjà beaucoup bu le soir même.
Ah d'accord.
Ah bah, on imagine.
Il y avait aussi bon le hand fauteuil hein, qui s'est, je sais pas si tu es au courant, se sont déplacés à Marseille pour un match et aussi bon pour montrer leur sport hein. Donc ils ont fait des ateliers et ils ont joué contre Aubagne, voilà. Et ils ont eu une super donc surprise, c'est qu'ils ont vu Laurent Manoudou. Donc voilà. Encore une fois de plus, il y a toujours un athlète.
Florent
Madoudou, pardon.
Oui. Ouais, non, mais
Florent.
C'est pas grave.
Ouais, c'est pas grave. Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que jusqu'à présent, le hand fauteuil de Mazan a toujours eu des superstars.
Ah oui.
Qui se déplaçaient, c'est des superstars.
Bah, déjà, ils ont un super parrain. Hein.
Oui.
Bruce Caudron, donc
ouais.
Voilà, que je te salue.
Oui.
Mais voilà, c'est vrai
sextuple champion du monde, on va pas en parler. Mais
oui, oui, non, mais c'est voilà. Et puis c'est vrai que bah, c'est une discipline en fait qui attire les gens parce que ça permet d'allier, on va dire, cette communion qu'il y a entre les personnes handicapées et les personnes valides, parce que les personnes valides peuvent jouer. Et c'est cette communion justement que véhicule le hand fauteuil et c'est vraiment très très bien.
Non, et puis ça a l'air de bien marcher, de bien se développer. Donc,
et puis quand tu sors avec eux, je peux te dire, c'est la fête. Hein.
Ouais.
Quand ils sortent, ça y va. Hein.
Ouais. Mais bon, je ne l'ai jamais fait, moi. Je préfère aller me coucher tôt et tôt. Non, sans blague. Non, mais c'est vrai que je connais un petit peu certains.
D'accord, mamie. Allez, vas-y, passe, mamie.
Allez, je passe au tir à l'arc avec les archers de Saint-Cyfrin de Carpentras. Hein. Il y avait un concours spécial jeune, donc samedi après-midi à l'Île-sur-la-Sorgue. Trois jeunes archers, donc accompagnés de leur entraîneur, il faut le dire aussi, Gérard Nari, donc ont représenté le club de Carpentras. Sabrina Becaert donc, et Jérémy François ont terminé sur la seconde marche du podium et accèdent ainsi au concours qualificatif. Et pour sa première compétition, Gabriel Bonnet termine deuxième et passe au niveau 2. En concours fédéral, il y avait quatre archers donc, qui ont fait le déplacement à Marignane. Christelle Sonto, donc, en senior femme, termine sur la seconde marche du podium. Céline Bétron est sixième. Chez les seniors hommes, Benoît Bétron termine au pied du podium. Et Christophe Sub, onzième. En dimanche, là où toujours à Marignane avait eu lieu donc, un tournoi régional jeune de tir olympique. Très belle performance pour Julien Sanz, cadet, qui termine second des qualifications et obtient une très belle troisième place à l'issue des finales. Émeric Jespierre, cadet, qui termine cinquième. Mathieu Puig, minime, termine dixième aux qualifications et remonte donc à la septième place à l'issue des finales. Donc je voulais les féliciter. Hein. En BMX Pern, hein, les Fontaines. Il y avait donc une compétition. Et il y a aussi juste un petit mot sur Mathilde Bernard qu'on a parlé la dernière fois. C'est donc qui vient de terminer sa campagne mondiale de début de saison avec une épreuve de la Coupe d'Europe à Herp en Hollande, puis deux épreuves de Coupe du Monde à Pendal et Zolder en Belgique. Donc là, elle a fait quand même pas mal, alors sachant qu'elle n'a encore que 16 ans. Elle s'est frottée aux finalistes régulières des championnes du monde et même olympiques. Et les, donc puisque les juniors roule avec les élites dames. Hein. Donc après donc trois demi-finales et un huitième de finale, c'est un bilan donc très satisfaisant. Elle est actuellement, ils disent 13e, mais moi j'ai vu 15e au niveau mondial. Pour un début, c'est quand même pas mal.
Bah, elle est
quand
même est très jeune.
Ouais, elle a 16 ans et elle est quand même la deuxième française meilleure.
Bah, oui.
La première est juste au-dessus. Donc franchement, pour
bah oui, c'est la deuxième, la première, elle est forcément au-dessus.
Non, mais elle est, oui, non, mais elle est deuxième française. Ce que je veux dire, c'est quand même une fille, la première française, c'est une fille qui est déjà au niveau mondial connu pour ses résultats.
Non, mais
Mathilde, c'est bon, la première fois qu'elle fait des championnats du monde. Je dis, c'est pas négligeable pour 16 ans. Donc elle nous laisse prévoir de très bons résultats. Bah,
surtout que c'est quand même très très jeune. Hein.
Tout à fait.
Après, il faut regarder un petit peu l'âge de ces
des Françaises qui.
Oui, elles ont plus de la vingtaine. Et puis l'âge auquel ils sont arrivés, justement. Non, laisse tomber.
Voilà. Donc le 21 mai prochain, donc, Mathilde va s'aligner sur son terrain à Perles-les-Fontaines. Il y a une compétition. Donc voilà. Là aussi, donc, je vais encore parler des pilotes pernois qui se sont déplacés ce week-end dans le 63. Alors, je ne sais pas comment on dit. Land. On dit pas le P, on dit pas le M.
C'est
on
Land.
Dit Land. Bon. Mm. Ils auraient dû écrire L-A-N, hein, c'était plus facile.
Bah oui, mais bon. C'est vrai que.
Donc, à Land, pour disputer donc, le second challenge France de la saison après celui de Sainte-Maxime, hein, donc en avril dernier. Ces épreuves sont des interrégions sud-est assurant la qualification pour les finales France, TFBMX et championnat de France, hein, mais aussi pour certaines catégories de challenge européen et mondial. Du côté des Pernois, donc pas de détails, hein, je vais dire tous les trucs. Finale de l'hélice solaire en Poussine, elle sait souvent hein, qu'elle est finaliste ou première. Victoire d'Emeline Lazare en pupille fille et cinquième place d'Eden Vache. Quatrième position d'Eros Dordoni en Benjamin. Victoire de Georgia Béal en minime fille. Présence en finale de Valentin Cornutello et Tessa Martinez qu'on connaît en cruiser cadet. Victoire de Morgane Martinez, sa sœur, en fille 17 ans et plus. Et finale de Gabrielle Travero Cadet qui vise la montée en nationale l'année prochaine. Donc beaucoup de demi-finales, de demi-finalistes, entre samedi et dimanche. Quentin Ventimiglia en poussin, Célestin Souk en pupille, Lucas Lagneau en benjamin, Nicolas Helleux en minime et Matteo Bozac en cruiser cadet. C'est vrai que c'est beaucoup de noms que je diffuse, mais quand même, il faut féliciter tous ces gamins. Parce que franchement.
Et puis c'est un sacré niveau.
C'est pour ça que j'aime bien.
Voilà. Et c'est vrai que sur le territoire, on a quand même trois clubs de haut niveau, entre donc Pernes, Carpentras et Sarriant. Voilà. Franchement.
C'est pour ça que j'aime bien donner le nom de tous ces gamins, parce que bon, ça les met à l'honneur un petit peu. Bah, on les met pas assez à l'honneur.
Ils ont gagné, donc c'est bien de les mettre à l'honneur. T'as raison. Attends, pour toi, Alexandre.
Ah oui, non, mais faut.
Si Alexandre gagne, on pourra le mettre à l'honneur.
Bah, il a gagné, donc on va le mettre à l'honneur tout à l'heure.
Ouais.
Je vais en parler après.
Bon, il était pas tout seul.
Non.
Bon, voilà. Mais bon, ça fait rien.
Non, c'est the best.
Je continue le championnat régional, donc BMX Pernois, je continue. Donc le 21 mai se déroulera le championnat régional BMX, donc reste à Pernes. Près de 400 pilotes sont attendus pour participer à cette compétition inévitable pour bon nombre de BMXeurs. Je savais pas que ça se disait comme ça, qui réunira uniquement les pilotes originaires des clubs de BMX de Provence. Donc le 04, le 05, le 84 et le 13. Donc voilà. Je continue avec le motoball. Il y a en élite 1, championnat de France, élite 1. Neuville, donc joué contre 3, 5 partout. Carpentras, Houlgat, 3-0. Vaugecourt, Camaré, 3-6. Au classement général, Carpentras est 3e avec 10 points. Juste derrière 3, qui a aussi 10 points, mais au niveau goal average, il est devant. Et Neuville, 14 points. Donc rien n'est joué, parce qu'ils ont un match de retard sur Neuville. Donc ils peuvent être à égalité. Sinon, ce week-end s'est déroulé aussi du karting. Donc, c'était le 2e Regional Series sur le circuit de Saint-Laurent-de-Mur. 4 pilotes du club de Carpentras donc ont fait le déplacement et bien sûr, sont montés sur des podiums. Donc, il y a eu en X30 senior Jason Vian qui l'emporte. En X30 master, Franck Darbonville réalise le meilleur résultat. En KZ, Francisco Castiello prend la première place devant Ghislain Raymond. Et j'ai oublié. Le basket. Donc, il y avait du basket. Donc, l'ABC de Carpentras chez les minimes garçons U15, Carpentras recevait Cavaillon et donc l'ont emporté 68-42. Il y avait aussi le championnat 2e division, les minimes finissent 2e du championnat 2e division. Finale du championnat de Vaucluse minimes, filles U15. Carpentras s'est incliné donc face à Nyon 58-65. Elles sont donc vice-championnes de Vaucluse. L'année dernière, elles étaient championnes. Cette année, elles ont perdu leur titre. Donc voilà.
T'es bon ?
C'est bon. Oui, il y avait pas mal de résultats. Et bon.
Merci. Allez, on fait une petite pause et puis après, on parle des résultats nationaux, mon petit Alexandre.
Et du rugby à 13 aussi.
Et du rugby à 13
oui.
Bon, ben alors, à tout de suite alors.
À tout de suite.
I had a dream, we were sipping whiskey neat. Highest floor of the Bowery, and I was high enough.
sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, nous sommes de retour dans le studio de Carpentras-Serre. Je salue notre technicien d'aujourd'hui, Bruno. Il peut pas parler, donc salut Bruno. Tu vas bien? Ouais. Bon, il va très très bien, impeccable. Et bien sûr, nos invités du club de Carpentras, Olivier et Frédéric, et bien sûr de l'OMS avec Régis. Alors, mon petit Alexandre, tu as gagné ce week-end, on m'a dit.
Alors oui, on va déjà commencer par les U17 d'Avignon, bon, qui ont gagné 44-12 contre Toulouse.
Ouais.
Donc ils ont fait une grosse performance, qui passent en demi-finale de championnat de France première division. Donc bravo à eux. Les U15 de Carpentras devaient gagner contre Bao à domicile, mais c'est Bao qui s'est imposé 22-14. Les U17,
donc ton club,
ma catégorie,
ta catégorie.
Voilà, mon équipe, on recevait l'Aréole ce week-end dans
parce que vous avez été repêché en fait, hein.
Voilà, parce qu'en fait on avait joué contre l'Aréole, donc le week-end d'avant on avait perdu, mais en fait il y a eu un autre barrage et il y a une des deux équipes qui avait déclaré forfait. C'est une équipe de région parisienne parce qu'elle jouait contre Marseille et elle pouvait pas descendre. Et du coup, elle a déclaré forfait.
Ils ont eu peur.
Et donc, non, du coup, on a eu beaucoup de chance parce qu'on est passé. Mmh. Et donc, on recevait l'Aréole ce week-end et on s'est imposé 38-0.
38-0.
Ouais.
C'est la vengeance de la semaine d'avant.
C'était un très beau match. On s'est vraiment.
Parce que la semaine d'avant, t'as quand même pris un carton.
Ouais. Et là, j'ai marqué un essai, tu vois.
Ah bien.
Fallait se rattraper.
Bah oui.
Fallait se rattraper.
Ton entraîneur était content.
Oui, bah, de toute façon, l'entraîneur était content du match de tout le monde. C'est bien ce qu'on fait. On a réussi notre objectif.
Comment s'appelle ton entraîneur ?
Alors, j'en ai deux. J'ai Nicolas Chaumard et Marco Roccaro.
Voilà. Donc, on les salue et on les félicite, les salue, hein, quand même, parce que ouais. Là, donc, vous passez un échelon supplémentaire.
Donc, là, on passe en demi-finale de championnat de France, deuxième division.
Mmh.
Et donc, on va affronter Carcassonne. Ce sera ce samedi-là, au stade de la Roseraie. Je sais pas encore l'heure, ce sera sûrement vers les 15h, à mon avis.
Ouais.
Mais voilà, donc c'est Carcassonne qui est sûrement la plus grosse équipe de la seconde division.
Ah, la pression là.
Donc en fait, si on gagne ce match, on part favori pour la finale. Concrètement, c'est ça. Et donc ce serait bien de gagner.
Parce qu'il n'y a pas d'aller-retour là.
Non, là c'est match, tu gagnes, tu gagnes. C'est tu gagnes, tu passes. C'est...
D'accord. Bon, donc,
on va espérer.
On en reparlera la semaine prochaine.
C'est ça.
Ça se joue où ?
Ça se joue à Carpentras, au stade de la Roseraie.
À la maison.
C'est ça, c'est parfait.
Oui, en plus à la maison. Donc c'est franchement, parfait. Vous avez un avantage.
On a été très chanceux, on a été tiré en premier, donc du coup on reçoit. Donc c'est parfait. Et Carpentras, donc l'équipe 1, l'élite 2, recevait Villegaillin qui se sont imposés 26-24. Et donc ils se qualifient eux aussi pour les demi-finales de leur championnat, donc d'élite 2. Et ils affronteront Bao, mais c'est là-bas, c'est la semaine prochaine, donc ça va être un déplacement un peu
plus. Ouais, Bao, c'est une bonne équipe. Hein.
Bao, c'est une très bonne équipe, ouais. C'est une très bonne équipe et donc ça va être assez dur pour eux.
Bah, ce serait bien de finir en beauté, surtout pour le président.
Bah, ce serait bien que
Jean-Pierre Gouret qui termine sur ce petit score.
Ouais, ce serait bien que la première se qualifie et que nous aussi on se qualifie.
Bah oui.
Ce serait bien qu'à Carpentras ait deux finales pour deux fois plus de chances de titre.
Mais la première, elle a pas déjà battu Bao?
Je crois qu'elle a déjà battu Bao, mais je sais pas si
c'était un exploit.
Je sais pas, là-bas.
Ouais. Je sais pas si c'était là.
Non, ils avaient gagné ici.
C'était ici.
Ils avaient gagné à Carpentras, ils avaient fait un super match. Mm. Mais là, ça va être là-bas et ça va être dur. Ça va être.
On va croiser les doigts. Ils vont peut-être faire une deuxième.
Ah, mais j'espère.
Moi, ben, j'espère. Écoute, hein, on pourra en débattre lundi prochain.
C'est ça, on va en parler.
Bon.
On va passer à la Ligue 1.
Ouais.
D'abord. Et ça y est, on sait enfin qui c'est notre champion. Enfin, mathématiquement, c'est pas encore fait.
Bah,
mais...
Monaco.
Enfin, mathématiquement, c'est pas encore fait, mais bon, c'est sûr, quoi. C'est Monaco. Donc, il s'est imposé facilement contre Lille, 4-0. Paris est allé gagner à Saint-Etienne, 5-0. C'est une victoire un peu inutile, mais une victoire quand même.
Bah, ils sont contents.
Ouais, ça leur fait. Ils sont contents. Ils ont gagné, ils sont bien. Marseille.
Attends, juste, il n'y a pas de supporter du PSG, quand même. Si ? Non, Olivier ?
Le dernier est décédé dans d'étranges situations.
Bon, c'est bon alors.
Et ce week-end, hier soir, il y avait Bordeaux-Marseille aussi. Donc, un partout entre les deux équipes.
Mm.
Sachant que Bordeaux a mis un but dès la deuxième minute qui était très litigieux. Si vous voulez, l'arbitre avait sifflé. Enfin, l'arbitre de touche avait levé son drapeau pour dire qu'il y avait faute. Et au final, l'action a continué. Et genre, il y a eu but alors que les défenseurs marseillais s'étaient arrêtés de jouer, quoi. Mmh. Parce qu'il devait y avoir faute.
Eh oui.
Et donc, du coup, ils se sont pris un but un peu bête. Et voilà, et ça leur coûte peut-être la victoire, mais ils conservent leur cinquième place européenne. Lyon s'impose 3-1 à Montpellier et Nice perd à domicile contre Angers. Ça, c'est un peu le résultat surprise du week-end. Donc au classement, on l'a dit, donc Monaco premier et donc champion. Deuxième Paris, troisième Nice, quatrième Lyon, cinquième Marseille, sixième Bordeaux. Dans les trois derniers, on retrouve donc 18e Dijon, 19e Nancy et 20e Bastia.
Donc Bastia va redescendre en Ligue 2.
De toute façon, Bastia et Nancy sont sûrs d'être
relégables.
D'être relégués. Donc il reste qu'un match.
Ouais, donc c'est
il
bon.
Il reste qu'un match et donc c'est parfait quoi.
D'accord. Il y avait autre chose ?
Et oui.
C'est bon, c'est fini.
Il y avait autre chose, il y avait du rugby à 15.
Ouais, non,
alors, c'est deux bonnes nouvelles. Ah. La première, c'est qu'en Challenge Cup, le Stade Français s'est imposé contre Gloucester 25-17.
Ah, c'est
donc
bien,
il remporte
c'est
la petite Coupe d'Europe. Donc c'est quand même bien pour un club français. Personne ne l'avait jamais gagné en France. L'ASM jouait la finale de Coupe d'Europe, qu'ils ont déjà joué plusieurs fois déjà. Hein, c'est la troisième ou quatrième fois qu'il la joue, non ?
Ouais.
Et c'est la. Bah, c'est, ils la perdent encore. Hein, et,
non, mais. Contre
les Saracens,
t'as regardé le match ?
28-17. Bah, figure-toi que j'ai pas regardé le match vu que moi je jouais.
Ah, ben voilà.
Donc,
mais t'aurais dû le regarder, c'était un beau match.
Ouais, mais clairement perdu.
Mais ils ont perdu.
Ouais, mais clairement perdu.
Non, mais c'est la pression.
Non, comme d'hab. Hein.
Bah oui.
De toute façon, on va les voir arriver en finale top 14, ils vont perdre aussi. Hein.
Non.
Comme chaque année.
Non, ils sont motivés.
Non. Perdons. Ils perdent toujours les finales.
On va lancer les paris après l'émission.
Bon, c'est bon.
D'accord. Non, c'est un petit duel qu'il a parce que il est jaloux que je supporte le Stade Clermont.
Parce qu'en fait, Clermont, faut dire ce que c'est. Clermont, c'est la seule équipe qui arrive à chaque fois en phase finale et qui perd à chaque fois.
Ah oui, mais
elle gagne jamais.
C'est le mental.
Bah oui, mais ils l'ont pas.
Bah non.
Ils ont pas comme parrain Poulidor par hasard. Bah, rassurez-moi.
Je pense que si. C'est ça le problème en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que Clermont, c'est une superbe équipe, mais dès qu'ils arrivent en phase finale. Ça part.
La peur de gagner.
C'est fou.
Le stress.
Ah ouais. C'est un peu comme Carpentras.
Ah bah non, nous on gagne. Nous en demi-finale. Là.
Ah oui, mais on verra la finale.
Le bouclier, faut le ramener maintenant.
Bah, j'espère bien.
Moi aussi.
Bon, il y a autre chose ?
Eh non.
Bon. Alors on va faire un peu de judo.
Bah, grand plaisir.
T'as déjà essayé ?
À l'école, alors, non. Non, on n'a jamais fait de ça. Même à l'école et tout, en fait. Non, pas de judo.
C'est vrai qu'à l'école, quand même, le judo est quand même une discipline enseignée par les professeurs de PS. Je sais pas, Olivier, t'en as déjà fait à l'école, non ?
Alors, depuis cette année, Carpentras Judo a mis en place avec la mairie, dans l'ordre du CLAE, des cours qui sont donnés dans les écoles, le jeudi, de 1h30 à 16h30, de 13h30 à 16h30. On tourne autour des écoles de Carpentras. Tous les trimestres, on change. Et là, ça vient de se mettre en place cette année. On a reconduit cette initiative pour l'année prochaine parce qu'il y a une forte demande. Mais c'est compliqué, vu les horaires à laquelle ça se trouve, de mettre des professeurs de qualité pour pouvoir enseigner ce sport.
Mais c'est vrai que c'est vraiment une plus-value pour faire découvrir la discipline à des enfants qui peut-être n'auraient jamais franchi la porte du dojo, quoi.
C'est ça.
Et il y a combien d'enfants à peu près qui passent entre vos mains ?
Alors là, le jeudi, on a deux groupes. On a deux groupes de 18 enfants qui se partagent l'après-midi. Alors en fonction de où se trouve l'école, on se dirige vers le club, vers le dojo qui est la salle des arts martiaux après la piscine de Carpentras. Ou alors la mairie nous met à disposition dans l'école même des tatamis de façon à ce qu'on puisse gagner du temps sur le transport pour pas perdre trop de pratiques de judo, quoi.
Et toi, Frédéric, tu fais un peu l'enseignement ?
Non, ça se passe le jeudi après-midi et je suis bloqué par mon boulot.
D'accord.
Donc, on a une collègue, Johanna, qui s'occupe de ça. Et je pense que l'année prochaine, je la rejoindrai pour essayer de. Au moins quelques heures.
Ouais, pour l'aider.
Essayer, pour l'aider et puis pour essayer d'ancrer le club sur beaucoup plus d'écoles sur Carpentras.
Ouais, parce que c'est vrai que le club de Carpentras, Régis, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est quand même un des plus gros clubs carpentrassiens avec plus de 140 adhérents.
C'est un grand club, mais c'est aussi surtout un club qui est très éclectique au niveau de ses adhérents, n'est-ce pas ? Monsieur le Président me comble. Voilà, c'est un avantage, c'est que c'est un club qui génère de la mixité, qui génère aussi dans des choses comme effectivement le temps périscolaire, de la découverte, de l'envie, et puis en dehors du fait que cette discipline est particulière parce qu'elle enseigne le respect, le calme, et que ça, c'est la vraie plus-value parce que ça structure les enfants.
Mais c'est vrai. Hein.
C'est vrai. C'est vrai, c'est un sport qui est porteur de valeur. Et au niveau de l'enseignement, ça se retrouve en permanence, à savoir que les gamins, que ce soit dans le cadre scolaire ou alors au club, adhèrent tout de suite à la discipline parce que c'est un art martial, parce qu'il y a un respect, parce que l'autre compte énormément. On ne peut pas pratiquer seul le judo, c'est pas un sport individuel où on peut faire comme le tir à l'arc ou autre, où on peut s'entraîner tout seul. C'est un sport où on a besoin des autres pour se grandir.
Et c'est ça qui est, c'est vrai que c'est un des seuls arts martiaux justement qui nécessite d'être deux. Exemple, c'est vrai que vous avez des katas également en judo.
C'est ça.
Et en judo, c'est vrai que les katas se font à deux.
Alors il y a plusieurs katas. Le premier pour le nageno, pour le passage de la ceinture noire, et ensuite pour le deuxième dan, troisième dan, il y a d'autres katas qui vont aller du sabre au passage au sol. Mais Fred va nous expliquer ça un peu plus clairement, quoi.
Ah, on utilise des armes en judo.
Ça arrive. C'est-à-dire que le kata est la représentation des mouvements avec un rite. Et un rythme qui se faisait donc à une époque qui date déjà de plus d'un siècle. Et pour pas oublier ces choses-là, eh ben, on les revit régulièrement à travers le kata, les katas, et on les fait au moment des passages de grades, de ceinture noire, et au fur et à mesure qu'on passe des grades. Et il arrive des katas supérieurs où on a besoin justement du katana et du tento, donc du sabre et du poignard court.
Mais sinon, ces armes-là, avant la ceinture noire, les adhérents ne le voient pas.
Non, c'est vraiment
pour les katas supérieurs.
Voilà.
Et par contre, le judo, c'est originaire de quel pays? Parce que c'est vrai qu'on parle toujours des arts martiaux, la Chine, le Japon, donc vraiment l'Asie. Le judo, c'est
pareil. C'est japonais.
C'est japonais.
C'est japonais. Maître Jigoro Kano, qui est devenu ministre des Sports après, mais qui au cours de sa vie a révélé le judo, issu donc des mouvements guerriers du jiu-jitsu. Il en a fait un sport où on utilise la force et la puissance de l'adversaire. Donc c'est comme ça qu'est né le judo, et après ça surtout. Et c'est là où la grandeur de Maître Jigoro Kano a été importante, c'est qu'il en a fait aussi un mode d'éducation. Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui sur nos tatamis.
Justement, bah écoute, on va faire une petite pause et on revient justement pour parler de cette histoire du judo qui est passionnante, d'autant plus qu'on vient d'apprendre que c'est issu aussi du jiu-jitsu. A tout de suite.
Fights and slamming doors, magnified, and all our flaws, and I wonder why, wonder what for.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
De retour dans le studio, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus pour assister à RTV Sport. Bien sûr, on est en direct sur le 102.2 et Alexandre, on peut nous réécouter.
Oui, on peut nous réécouter.
Non, il marche pas ce micro.
J'ai oublié que c'était celui-là qui marchait. Oui, donc on peut nous réécouter donc demain matin, la rediffusion de 6h30 à 8h donc sur le 102.2. Et le podcast sera donné dans la journée de demain sur le site internet www.rtvfm.net et sur la page Facebook RTVFM.
Très bien, bravo. Voilà. Prochain coup, je te préviendrai qu'il faut le rajouter. Voilà, donc nos invités d'honneur d'aujourd'hui. Donc tout d'abord du club Carpentras Judo, Olivier Achard, rebonsoir, président du club.
Rebonsoir, merci encore une fois, merci de nous avoir invités.
Ah ben, avec grand plaisir. Et ton professeur et le professeur du club, Frédéric Durand. Rebonsoir Frédéric.
Rebonsoir.
Et on a bien sûr l'Office municipal des sports de Carpentras qui s'exprime en deuxième partie d'émission, mais bien sûr, il peut s'exprimer tout au long de cette émission, hein, un habitué, Régis Trottener. Ça va, Régis ?
Oui, toujours là.
Toujours un peu en rouille, ce que je vois.
Oui.
Non, mais c'est la clim qui est peut-être un petit peu forte. Donc, juste avant la pause musicale, tu nous disais, Frédéric, que, si j'ai bien compris, que le jujitsu et le judo, ils sont un peu parents.
Ah, plus que parents, le jujitsu est l'ancêtre du judo. C'est-à-dire que le jujitsu est issu de c'est une méthode guerrière de combat, les samouraïs l'utilisaient, et au 18e siècle, c'est devenu petit à petit, au milieu du 18e siècle, c'est devenu, après l'époque des samouraïs, un sport ou un jeu d'affrontement, un jeu de lutte japonaise. Et à ce moment-là, donc, ces sports se sont scindés en trois parties. Le karaté, qui a été l'origine du pied-point au Japon. Et puis le judo, qui lui était un sport de chute où on devait faire tomber l'adversaire. Et de projection, voilà, et puis de suivi au sol.
Et le jujitsu traditionnel, celui qui est enseigné et qui fait partie de la Fédération Française de Judo également, c'est cet ancêtre-là ou il a été quand même remodelé ?
Il a été remodelé. Il a été remodelé parce que même le judo, en fait, a, de par ses règlements, pour le rendre plus attractif aussi, parce que le jujitsu au départ était quelque chose d'un peu rébarbatif, avec un enseignement très carré, une attaque et une réponse à l'attaque toujours bien définie. Aujourd'hui, on laisse libre cours donc au judoka et c'est très ouvert et on arrive même à avoir du jujitsu de compétition où ça termine par un combat avec des règles bien orchestrées, où on fait très attention à respecter l'adversaire, mais où ça devient vraiment très rapide et visuellement très beau.
C'est vrai qu'en jujitsu, la France est relativement forte. Je sais qu'il y a des villes, le Plessis-Trévise, qui a été, ils ont eu des champions du monde justement en jujitsu. Donc là, c'est en kata à deux. Et j'ai eu l'occasion justement d'assister à des compétitions. C'est vraiment impressionnant. Alors je ne sais pas si au niveau du judo, il y a des compétitions kata, mais par contre, c'est vrai qu'en jujitsu, c'est particulièrement impressionnant dans la mesure où c'est prévu entre les deux, mais lorsque ça se réalise, c'est vraiment il y a une rapidité et c'est vraiment, on a vraiment l'impression que c'est un combat, quoi.
Oui, il y a une très très belle chorégraphie, c'est énormément travaillé.
Voilà,
excusez-moi. c'est énormément travaillé. Donc, les gens arrivent avec un travail sur 4 minutes où ils montrent toute l'étendue de ce qu'ils savent faire. Et c'est très acrobatique, c'est évidemment il faut trouver des situations nouvelles pour le jury, pour marquer des points supplémentaires et utiliser toute la gamme du judo, que ce soit debout, au sol, avec des attaques directes ou alors avec des armes, et ça plaît énormément. Aujourd'hui, la dérive du judo va sur le jujitsu et sur les sports de combat plutôt libres.
Et j'avais l'impression, alors est-ce que c'est une idée reçue, que beaucoup de judokas qui ont été internationaux prennent leur retraite en jujitsu ? C'est une idée reçue ou ça commence vraiment à la tendance à s'orienter vers ça ?
C'est pas la tendance, c'est que ça s'oriente sur le jujitsu parce que le judo est un sport traumatisant. le judo à haut niveau, ça, au bout de quelques années, ça fait mal. Passer la trentaine, c'est un sport qui est difficile et où les réveils sont douloureux.
Oui.
Non. Après, ça dépend comment ça se pratique. Nous, au club, on a un très très beau cours de judo. On a un des plus beaux cours d'adultes du département. Mmh. On se retrouve facilement à une trentaine et de tout niveau, c'est-à-dire des compétiteurs, mais aussi des papas qui ont besoin d'aller travailler le lendemain. Et on est là pour la fraternité, pour se faire plaisir. On échange, chacun à son niveau, chacun à son rythme. Le jour où on est en forme, eh ben, on se sort les tripes. Et puis le jour où on n'est pas là, eh ben, on souffle un peu, on se met sur le côté. Voilà. Chacun apporte ce qu'il peut et prend ce qu'il veut aussi.
Ben, c'est vraiment ça, la convivialité. Et puis voilà comment on apprend le judo.
Le partage, voilà.
Dernière question concernant justement par rapport le rapport entre le judo et le jiu-jitsu. On parlait en jiu-jitsu qu'il y avait le combat et les katas en duo. Est-ce qu'au niveau du judo, c'est la même chose ou il n'y a que les combats?
Non. Par exemple, en judo, pour passer sa ceinture noire, il y a deux parties. Une partie technique qui se fait à travers la démonstration de kata, qui s'appelle le Nagenu Kata, c'est les trois premières séries. Il y en a cinq après pour passer le deuxième dan. Alors, le jeune judoka, c'est-à-dire qui est ceinture marron, va commencer par passer ces trois séries de Nagenu Kata devant un jury. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il sort de son club, c'est quelquefois c'est son professeur qui l'envoie à l'extérieur. Être jugé par d'autres professeurs donc pour avoir ses katas. C'est la première partie donc de sa ceinture noire et ensuite il ira affronter 5 adversaires qu'il devra battre du premier coup ou alors cumuler 10 combats gagnés et à partir de ce moment là il pourra prétendre à la ceinture noire.
Et toi, t'es ceinture noire, mais quel dan?
Alors, je me suis arrêté au 4e dan, 5e dan en compétition, mais après ça, toute la partie technique qui me plaisait pas trop et j'ai arrêté la course à l'armement.
Et toi, Olivier?
Moi, je suis première dan.
Première dan?
Oui.
Et vous êtes nombreux à être ceinture noire au club?
Au club, on a environ une quinzaine de ceintures noires qui sont là régulièrement. Après, je pense que depuis que Carpentras Judo existe, même après au moment de la fusion, ça doit représenter 35 licenciés environ.
En tant que ceinture noire?
Ouais, oui, en tant que ceinture noire, mais qui sont présentes régulièrement sur les cours, entre 12 et 15 personnes.
Personnellement, je crois que j'ai formé plus d'une centaine de ceintures noires.
Ah bah oui, parce que Olivier, il m'a dit que tu l'avais formé, donc oui, en fait, ouais. Tu es presque un mètre vu ton âge.
Non, surtout pas. Centimètre encore. C'est vrai que d'abord, c'est pour ça que je suis carpentracien, c'est que j'ai été accueilli à 20 ans à Carpentras comme jeune prof de judo, et j'ai tout de suite, ça a bien pris. Je me suis retrouvé entouré de jeunes gens comme Olivier, qui avait quoi, 10 ans
9 ans.
9 ans. Voilà, 9 ans. Et aujourd'hui, toute la structure du club de judo est bâtie avec ces gens-là. C'est une équipe, je les ai vus grandir, je les ai vus devenir papa, j'ai enseigné à leurs enfants. Et moi, là, au milieu, ben, je me suis laissé porter. C'est un bonheur que d'être toujours le professeur et de tout partager, le bon comme le mauvais. Aujourd'hui, c'est l'amitié qui a pris le dessus. Et on est toujours heureux d'avoir du monde supplémentaire et d'accueillir chaque année des gens qui rentrent dans cette ambiance et qui s'y trouvent très bien parce que, hormis la discipline, il y a ce partage. Et quand ils voient on n'a plus besoin de se parler, on se connaît, on sait comment les autres vont réagir. Personnellement, je m'en remets tout à fait à mes anciens. Olivier qui est là et qui est là depuis quelques temps, mais il y a Elisabeth qui est notre secrétaire, il y a Pascal Le Gastellois, il y a Guillaume Alugi, Olivier Pavia.
Florence Muratori.
Florence également, voilà.
Mais t'as toujours été au club en fait, t'as jamais été infidèle au club. T'es jamais parti ailleurs pour revenir.
Non, pas le droit.
J'avais pas le droit.
Ben non. On avait un bon, on l'a gardé.
Parce que le club, il a été créé en quelle année?
Ils sont indulgents. Non, le club, il a été créé, si je me souviens bien, en 93.
Voilà. 91.
91.
Carpentras Judo, ça a été 91. La fusion du Budokai et du club de Carpentras qui a été fait en 1991.
Et moi, je suis arrivé à Carpentras en
1981.
Voilà. À l'âge de 20 ans.
Donc, tu as connu la fusion, tu as connu tout ça, depuis 81, tu es au club de Carpentras.
Voilà. Ça fait 36 ans que je suis professeur de judo à Carpentras.
Et donc, au club de Carpentras, tu enseignes le judo. Vous êtes combien de profs?
Alors, Carpentras Judo, aujourd'hui, c'est 3 professeurs. C'est Frédéric Durand, Hubert Jureau, le plus vieux. l'expérience, on va dire. Quoi.
Merci.
Hubert, Hubert Hureau, qui se partage les cours, parce que on a des plages horaires le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi, donc on s'est partagé un peu les plages horaires de façon à donner la possibilité aux gens de pouvoir venir quand ils veulent, pour, de façon à organiser leur temps au mieux. Et comme on le disait tout à l'heure, on a Johanna qui est arrivée cette année, qui s'occupe des claés dans les écoles. Voilà. Et après de l'encadrement au niveau compétition, le samedi, le dimanche, Hubert et Johanna se partagent un peu ce rôle aussi.
Ah oui, donc c'est bien structuré, c'est bien organisé. Et les enfants, vous les prenez à partir de quel âge ?
Alors, 5 ans. Cette année, on a essayé de faire un baby judo, mais c'est quand même un sport qui mérite un peu d'attention. Même 45 minutes, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. On en a quelques-uns. Mais c'est pas donné à tous les enfants de pouvoir à cet âge-là arriver à tenir 45 minutes.
Parce que les compétitions en judo, ça commence à quel âge ?
À partir de poussin. Ouais.
Il y a des animations. Il y a des animations très tôt où on met les enfants qui le veulent, parce que c'est pas rien d'obligatoire, en dualité avec notre adversaire. Et puis il y en a d'autres qui adorent ça, et puis il y en a certains qui n'aiment pas du tout. Et ben chacun fait ce qu'il veut. Mais après, il commence pour les bagarreurs, on va dire, ça commence à 5-6 ans.
6 ans.
Voilà. Ils ont très vite envie de se frotter un peu
aux autres
et avoir du monde à l'extérieur, sortir du club pour aller rencontrer d'autres enfants. Ce week-end, nos élèves étaient à Veden, on a été formidablement bien reçus donc, par le club de Veden du Fuji. Et très souvent, on fait des échanges comme ça qui nous permettent de rencontrer d'autres adversaires.
Ah, et donc ce week-end, vous avez combien de compétiteurs qui étaient partis à Veden ?
Je crois une trentaine, c'est ça. Ouais.
Ah oui, donc...
Ça partait des plus jeunes catégories, Poussin, Benjamin, Minime, Cadet, Junior, Senior.
Voilà. Ah ouais, voilà. Donc c'était super sympa en fait.
Sympa, très ouvert, avec... voilà, c'est pareil, on est heureux de se revoir entre clubs voisins, amis, puis ça se passe toujours très bien.
Et au niveau, tu parlais tout à l'heure des plages horaires, donc lundi, mardi, mercredi, vendredi, je crois. Comment sont organisées les cours ? C'est-à-dire que tout le monde est en même temps ou c'est par niveau, par âge ?
Non, on a essayé de mettre ça par tranche d'âge. Parce que si on met des enfants qui n'ont pas les mêmes âges, les mêmes gabarits, c'est compliqué, ils risquent de se faire mal. Alors qu'en les régulant... Ils n'ont pas tous la même morphologie, des enfants peut-être qui vont avoir le même âge mais qui sont un peu plus développés, ben on les fera passer sur le cours d'après, mais à la base c'est déjà régi par l'âge à peu près. On peut retrouver, alors au niveau ceinture, ils sont à peu près dans les mêmes niveaux de performance. Le lundi de 17h30 à 18h30, nous avons les 6 à 8 ans. Le lundi de 18h30 à 19h30, les 9 ans et plus. Et de 19h30 à 20h30, nous avons les adultes. Le mardi, c'est exactement la même chose. Le mercredi, de 14h30 à 15h30, nous avons les 6-12 ans. Et de 15h30 à 16h30, les 4-6 ans. Et le vendredi, on retrouve les mêmes cours que le lundi et le mardi.
Ah oui, donc c'est bien organisé, puis les enfants peuvent venir plusieurs fois.
Autant de fois qu'ils veulent, c'est pas limité, c'est en fonction de leur envie, des besoins qu'ils ont, de leur capacité. Voilà, c'est ouvert sur les 4 jours de la semaine. S'ils veulent faire les 4 cours, ils font les 4 cours.
Et ils s'entraînent, vous entraînez à quel endroit ?
Alors on s'entraîne stade Pierre de Coubertin, à la salle des arts martiaux. C'est derrière la piscine, juste à côté du bureau de l'OMS.
Ah oui, donc le Régis connaît très bien, justement.
On est partenaire.
On se voit, on peut pas se manquer.
C'est ça. On les a invités à venir faire du judo, mais on attend toujours.
On vient juste pour les âgés, les apéros. Donc.
D'accord.
Pourtant, Régis, c'est un grand sportif. Hein.
Oui.
Il y a longtemps.
Donc, au complexe Pierre de Coubertin, donc à la salle de judo, les entraînements, donc 4 fois par semaine.
C'est ça.
Hein. Et vous avez un site internet ?
On a un site internet, mon site carpentra.judo.
De toute façon, on le mettra sur le podcast. Et je crois aussi que vous avez une page Facebook.
C'est ça, la même chose.
Carpentra Judo.
Carpentra Judo. où on va pouvoir retrouver toutes les informations, toutes les fiches de façon à pouvoir s'inscrire, les certificats médicaux qu'il faut faire, les heures d'entraînement et les tarifs qui sont adaptés. Alors en fonction des familles, le prix va être dégressif s'il y a un ou plusieurs enfants qui viennent faire du judo.
Plus les parents qui peuvent venir, plus parce que parents, j'ai bien compris que c'était convivial. Donc comme ça, toute la famille s'inscrit.
De 5 ans à 77 ans, on prend tout le monde.
Tout le monde ?
C'est ça.
Mais Frédéric, il a moins de 77 ans ? Parce que comme tu me disais qu'il était...
Il y a des trucs où on ne peut plus le dire.
On peut plus le dire.
Je ne suis pas le doyen du club.
Tu n'es pas le doyen du club ? Bon. Il a quel âge, le doyen du club, justement ? Une question un peu indiscrète, mais...
68 ou 69 ans. C'est José.
José, oui.
Ah oui. Ah oui, donc on peut pratiquer le judo
À son rythme, ouais. Se faire plaisir, faire des échauffements, faire des combats, on s'adapte. Mais ne serait-ce qu'apporter le savoir, ne serait-ce qu'apporter le savoir intellectuel aux plus jeunes et la maîtrise de son art.
Mais en tout cas, vous avez bien expliqué justement ce qu'était le judo. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. On en sait maintenant beaucoup plus sur le club de Carpentras et ça donne vraiment envie de venir vous voir. Donc j'invite tous nos auditeurs à prendre contact avec vous par l'intermédiaire donc du site internet, de la page Facebook. Donc merci beaucoup. Bien sûr, tous les renseignements sur la page Facebook, le podcast. Et puis nous, on se retrouve juste après pour parler du sport en général, et également d'un événement qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, fin avril, la Carpentras Night Fever. A tout de suite.
Elle recherche un mec posé qui n'aspire qu'à s'engager. Donc pour moi c'est fait, elle m'a vu parler à toutes les femmes qui sont passées. Elle fait beaucoup trop d'esprit, voilà, mais je veux la croquer, yeah. Je lui dis que j'aime m'amuser, me dit bon qu'elle apprécie mon franc parler. Original et décalé, on ne peut me comparer, parfois complètement barré. Ça peut la faire chavirer, original et décalé. On ne peut me comparer, parfois complètement barré. Ça peut la faire chavirer, aïe maman. Quoi qu'elle dise, elle est déjà piquée. Je ne suis pas son amie, ça non, elle peut l'oublier, yeah, yeah. Tu lui dis qu'est-ce qu'on fait, me répond qu'elle adore, mais adore mon franc-parler, wow. Original et décalé, on ne peut me comparer, parfois complètement barré. Ça peut la faire chavirer, original. Laisse-moi te goûter, oui, laisse-moi te goûter, laisse-moi te goûter, oui, laisse-moi te goûter, oui, laisse-moi. Oh maman, non, qui fait, qui fait, qui fait, qui fait, qui non, non, qui fait les qui fait, original, décalé, qu'on ne peut nous comparer, parfois complètement barré, ça peut la faire chavirer.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc nous sommes de retour dans le studio. Bah, on a appris beaucoup de choses, hein, Valérie, sur le judo.
Oui.
Mais je t'ai pas posé la question, t'as pratiqué le judo ?
Non,
jamais ?
Non. Et à l'école, j'en avais pas non plus.
Mais surtout,
à l'école, je me rappelle quand on faisait, quand on était au collège ou même en école primaire, c'était beaucoup de basket,
sport collectif.
Voilà, les sports collectifs et la course à pied aussi. Mm. Bon, parce que, mais sinon, c'est vrai que les sports individuels comme le judo, jamais. Hein.
Ah ouais, parce que moi, c'est vrai que j'ai pratiqué du judo à l'école.
J'ai habité en région parisienne et jamais je n'ai fait de judo. Oui.
Bon, bah écoute. Alors,
on était peut-être plus nombreux qu'en province.
Non, c'est parce que tu n'étais pas dans un quartier d'attaque.
Voilà.
C'est pour ça.
Et voilà.
Alors, avant de parler justement de l'OMS, on a la sportive de la semaine.
Le sportif de la semaine, alors c'est plus même le sportif, pour moi, le sportif français de l'année. Le footballeur français de l'année, pour moi, honnêtement.
Mais quelle année ?
De cette année.
Cette année-là.
Et parce qu'en fait, il s'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle N'Golo Kanté. Donc, c'est un joueur français qui a fait l'Euro avec l'équipe de France. Hein, Alors, c'est un joueur français. Et pourquoi j'ai choisi ce joueur ? Et bien, parce que ce joueur, depuis maintenant 2 ans, tout le monde s'extasie devant lui. L'année dernière, il avait été l'un des principaux acteurs de la victoire de Leicester, l'exploit de Leicester qui avait été champion d'Angleterre, qui est première division. Ça avait été la grosse surprise de la saison dans le football européen et mondial.
Mais il joue.
Il jouait à Leicester et il a signé cette année à Chelsea. Et faut savoir que cette année à Chelsea, il a fait une saison incroyable. Il a été élu meilleur joueur de la saison du championnat. Donc c'est-à-dire qu'apparemment le meilleur joueur en Angleterre, c'était lui. Il a été champion avec Chelsea et donc c'est un joueur qui est parti de très loin parce qu'il faut savoir ça fait que 2 ans qu'il joue en Angleterre. Qu'en 2 ans il a gagné deux championnats d'Angleterre vu que Chelsea a été champion le week-end dernier, donc il a gagné son 2e titre. Il joue à Caen il y a seulement quelques saisons de ça et il y a encore quelques temps de ça il jouait en DH, donc il jouait tout bas et maintenant il est au sommet de l'Europe. Donc c'est pour ça que je voulais un peu parler de ce joueur.
Il a quel âge ?
Il a 26 ans. Il a 26 ans.
Ah, il est pas si jeune que ça finalement.
Et pour vous dire, encore en 2012-2013, il jouait à Boulogne.
Ah oui.
Il jouait à Boulogne. Et maintenant.
Tu connais Régis ?
Oui, c'est un club formateur, mais c'est surtout, bon, malheureusement aujourd'hui, c'est pas un petit club. Voilà, c'était un tout petit club par rapport au temps des Colombes, Boulogne, et c'était.
C'est devenu un tout petit club de foot, et puis maintenant, en 3 ans, il est arrivé à Chelsea, qui est un monstre européen, concrètement. Donc, c'est un joueur qui est devenu incroyable, il a déjà joué 15 matchs en équipe de France. Donc c'est
Il joue quel poste ?
Alors, il joue milieu central. Et. Il a la particularité, enfin, d'après tous les spécialistes foot, c'est un joueur qui ils savent pas comment il fait. Parce qu'en fait, N'Golo Kanté, faut savoir que c'est quelqu'un qui est absolument partout sur le terrain. C'est-à-dire dès qu'il perd un ballon, il va aller tout de suite le récupérer, il va gratter des ballons. C'est un joueur incroyable.
C'est un ancien Didier Deschamps alors.
C'est.
Parce que Didier Deschamps, il courait partout.
Il est très vif. Surtout, mais il est pas très grand, hein. 1m68.
Non, il est pas très grand.
C'est un ratisseur.
C'est un joueur très physique.
Ouais.
Qui est très athlétique, qui est très, très agressif aussi. Et qui est un super joueur et qui maintenant va faire le bonheur de l'équipe de France. C'est un joueur qui est pro que depuis 2012. Faut savoir 2012, en 4 ans.
Et il est rentré en équipe de France. Et il en est à combien de matchs, tu m'as dit ?
Il en a 15 matchs en équipe de France.
15 matchs déjà. Et il a fait l'Euro. Oui.
Et il a fait l'Euro. Donc c'est quand même un joueur d'avenir et c'est un joueur d'avenir pour l'équipe de France. Donc c'est. Ça, je voulais un peu parler de lui.
Bon, mais c'est bien. Il n'y avait rien d'autre à dire sur lui ?
Non, rien d'autre.
Il est né à Paris.
Il est à Paris, oui. Bah après.
26 mars 1991.
Ce qui explique Boulogne.
Voilà.
Ce qui explique Boulogne, exactement.
Mais voilà.
Mais voilà, c'est un joueur qui va
à suivre.
À suivre et à mon avis qui va nous faire beaucoup de bien pour la Coupe du Monde l'année prochaine.
Bah peut-être qu'un jour il sera nommé pour le Ballon d'Or, hein. Va savoir.
Bah même cette année il peut l'être, hein, parce que cette année le Ballon d'Or.
Ouais mais bon.
Parce que cette année le Ballon d'Or risque.
Il y a un lobbying je trouve sur le Ballon d'Or de cette manière.
Bah cette année ça va changer parce que.
Messi Ronaldo sortirait.
Parce que Messi non parce
sur la retraite.
Messi et Ronaldo font pas forcément les meilleures saisons.
Ouais mais attends, quand tu sais que le ballon, tu connais le Ballon d'Or avant même qu'il le nomme, il y a un problème.
En fait, le Ballon d'Or, le problème c'est que c'est toujours Messi Ronaldo à partir du moment où c'est la FIFA qui avait repris le le concept en fait du Ballon d'Or, le concept qui a été inventé par France Football hein, quand même. Et en fait France Football a récupéré le Ballon d'Or l'année dernière. Bon, après il y a eu la saison stratosphérique de Ronaldo, donc ils l'ont attribué à Ronaldo. Mais cette année il y a de plus en plus de gens qui font une pétition pour que ce soit N'Golo Kanté, soit le gardien de la Juventus Turin, le gardien italien Gianluigi Buffon, qui est là, le grand gardien italien, qui est là depuis...
Oui, voilà, ça oui, fait très là, longtemps. Voilà.
Parce que lui, il est pas...
Il va avoir 39 ans.
Quand même, hein.
Voilà. Il va avoir 39 ans, et il a dit qu'il allait continuer au moins jusqu'à la Coupe du Monde, et qu'après, il verrait. Et il faut savoir quand même qu'il est en finale de Ligue des Champions, et que son équipe, c'est la meilleure défense.
Mais moi, après tout, il est aussi méritant qu'un joueur sur le terrain, hein, parce que vu l'individu.
Et puis le palmarès qu'il a.
Palmarès.
C'est l'héritier de Dinosov. Hein.
Voilà.
Oui. Et puis même pour moi, je pense honnêtement que ça fait partie des joueurs, genre des légendes du football, que ce soit dans 20 ans, on en parlera encore. Donc, voilà.
Et puis honnêtement, les ballons d'or, vous en connaissez beaucoup qui sont gardiens?
Non, il n'y a rien. Justement, non, pourquoi pas un gardien de but
Donc voilà, pourquoi
cette
pas
année, faut que ça change. Il faut que ça change.
Ben, on verra un petit peu.
Moi, je pense que Buffon sera peut-être sur la liste et même peut-être le finaliste parce que ça concrétisera sa carrière, quoi.
Je pense qu'il
a une sacrée carrière cette année.
Je pense que Buffon il pourrait être Ballon d'Or si la Juventus gagne la Ligue des Champions contre le Real Madrid fin mai. Honnêtement, c'est largement possible. Connaissant la Juventus, maintenant c'est le Real Madrid, donc ça va être dur. Mais moi j'espère vraiment que la Juventus va gagner cette année, parce que même si j'aime le Real, j'aime bien le Real, que c'est un beau club, faut que la Juventus gagne rien que pour Buffon.
Bon, mais merci Alexandre.
Et ben de rien.
Et on va suivre. Maintenant, l'Office municipal des sports de Carpentras. Une question toute simple, Régis, peut-être compliquée aussi. C'est quoi une OMS?
C'est un office municipal des sports, c'est une association loi 1901 qui est née sur la volonté de la commune, mais qui est beaucoup plus souple dans le sens où elle n'est pas gérée de droit public, mais par le droit privé.
Mais c'est une association paramunicipale ?
Non. Les associations paramunicipales n'existent plus, puisque ça impliquait la gestion de faits via des élus. Je vais le dire très clairement, nous, chez nous, par exemple, dans notre règlement intérieur et dans nos statuts, conformément à la loi... Les élus qui sont des membres de droit, il y en a deux. Ils n'appartiennent pas au bureau directeur, donc c'est-à-dire la partie opérationnelle de l'association. Ils sont là simplement pour représenter la municipalité, qui par contre nous donne des missions particulières. On parlait tout à l'heure du judo. Il existe par exemple à Carpentras, ce qu'on appelle le MADES, c'est la mise à disposition d'éducateurs sportifs, c'est-à-dire que l'OMS prend en charge une partie, on va dire, des heures et donc du salaire de certains entraîneurs dans certains clubs, selon certains critères qui sont basés principalement sur l'innovation, la mise en avant d'une école, c'est-à-dire tout simplement l'accès à la pratique, la découverte. Et ça concerne des jeunes de 6 à 18 ans. Donc c'est des missions bien particulières qui sont nées dans les offices municipaux des sports, qui sont renouvelées aujourd'hui sur nous avons 1200 OMS sur la France, et entre autres, et on touche à peu près 4 millions et demi de pratiquants de multiples sports, parce que nous ne faisons pas de sport, nous sommes des facilitateurs pour aider les clubs à se développer.
C'est pour ça que c'est une, comme je le disais tout à l'heure en préambule, c'est que c'est une association sportive, mais en même temps qui n'est pas forcément connue, mais qui est indispensable sur le territoire.
Ah bah nous faisons partie, par exemple, nous faisons partie du ministère Jeunesse et Sport, dans le sens où nous sommes affiliés, nous sommes des affinitaires, comme certaines fédérations, comme les ASPTT. Pas des délégataires, parce que les délégataires, c'est le tennis, le football, la natation, entre autres, et qui, elles, appartiennent au comité olympique. Nous, on n'y fait pas. Mais nous, on est juste à côté, et on est des acteurs du sport en aidant les clubs, et surtout en travaillant sur des choses assez simples. C'est aider un club à se développer au niveau de la recherche de partenaires, aider un club dans les ressources humaines, et même dans certains cas, puisque les OMS... Il y a aussi ce qu'on appelle les centres médicaux sportifs qui sont des fois associés. Il y en avait un sur Carpentras qui malheureusement a fermé il y a 4 ans et qui permettait tout simplement on va prendre l'exemple du rugby, c'était de passer les tests d'effort.
Eh oui.
Parce que quand les hôpitaux sont encombrés, les CMS étaient là. Ça permettait de faire du suivi, un suivi très particulier, concrètement, que pour les sportifs. Et ça, c'est important. Et c'est quelque chose qui est en train d'être relancé sur la France entière, puisque la Fédération nationale des OMS a mis ça comme objectif. Et nous sommes des promoteurs du sport santé, entre autres.
Parce que toi, tu es président de l'OMS de Carpentras, mais je crois que tu as des responsabilités au niveau
départemental. Je suis président régional des OMS de PACA.
Et par contre, tu parlais justement des CMS, qu'il y avait un lien avec les OMS, mais on sait également qu'il y a les offices intercommunaux des sports et les OCS, les offices communaux...
Oui, les offices communaux des sports.
Communaux des sports.
C'est ça.
Et justement, quelles sont les différences entre ces trois types de structures?
Alors, il faut savoir qu'en fait, nous sommes adaptés aux configurations. C'est-à-dire que l'OIS est un office intercommunal, c'est-à-dire normalement l'acteur qui est en face des communautés d'agglos. Les OCS, c'est pour les petites communes, c'est-à-dire les villages, entre autres. C'est sa définition.
Et il y a un nombre d'habitants moyen, moins de 3500, parce que c'est vrai qu'on parle souvent au niveau des...
On va être très clair, c'est à peu près moins de 3000 habitants.
D'accord.
Alors après, ça permet de regrouper plusieurs villages. Et après, on arrive à peu près au potentiel d'une ville. Ensuite, il y a des choix. Mais c'est vrai que les OMS sont peu connus. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses et qu'entre autres, l'AFDOMS, elle est aujourd'hui reçue lors du Congrès des maires de France. Parce que, justement, il faut aller voir les communes, il faut leur expliquer. Et on va prendre un exemple type. Le comité régional des OMS va devenir bientôt... va changer de nom puisqu'on va devenir l'Office régional des sports.
Voilà. Oui, donc vous participez de manière totalement totale sur la politique sportive du territoire.
Ah, tout à fait. Tout à fait, parce que je prendrai un exemple en PACA. Vous avez même des OMS très spécifiques. Je tairai la ville puisque ici on est à Carpentras. Mais je connais une ville qui possède deux OMS.
Ah bon ?
Un OMS des sports nautiques et un OMS des sports terrestres. C'est très particulier et pourtant ça dure depuis 40 ans.
40 ans. Mais justement, on va parler dans quelques instants après la pause musicale de l'OMS de Carpentras parce que il y a beaucoup d'associations sur le territoire. Allez, à tout de suite.
Yep.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Toujours avec Régis Trottenaire, président de l'Office municipal des sports de Carpentras et également président non, de la
régionale.
Président régional des OMS de PACA.
Comme ça permet de recentrer un petit peu le.
Moi, je voulais poser une question à Régis. Je ne sais pas si je lui. Je pense pas que lui avoir déjà posé. Comment on devient président d'une telle association ?
Alors, ça dépend effectivement en fonction des statuts, mais dans la grande majorité des cas, c'est une recommandation qui a été d'ailleurs appliquée à la lettre à Carpentras. Nous sommes des membres actifs issus des clubs qui sont adhérents de l'OMS. Chez nous, 54 clubs, et dont le Carpentras Judo entre autres. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en grande majorité, dans le conseil d'administration, qui est composé de 20 personnes, dont on enlève donc deux élus de droit, donc ça fait 18, plus deux personnalités qualifiées qui sont des gens qui ont rendu service au sport et qui sont reconnus. Et donc, il reste 16 représentants de clubs actifs. Voilà. C'est ça la nouveauté de certaines choses. Quand on a fait le toilettage de l'OMS en 2014, ça a été une volonté, à savoir que tous ceux qui sont autour de la table, ils sont en activité, parce que les défis du sport sont bien plus importants qu'on ne le croit. Avoir des salariés, c'est une responsabilité. Déplacer et se déplacer avec des enfants, ce sont des responsabilités. Le dopage est une réalité. Donc ce sont des points sur lesquels on ne peut plus. On est des bénévoles, mais on se professionnalise et surtout on est à la page. Le discours, par exemple, du passé qui disait « Ah, oh, c'est pas grave, les règles, on s'en fout, on n'a jamais eu de problème. » Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, aucun responsable associatif, quelle que soit l'association, ne peut prendre par-dessus l'épaule, on va dire, la sécurité d'un enfant. Voilà. Et ça, c'est de mieux en mieux. Alors, ça réduit effectivement le champ des bénévoles, parce que c'est compliqué, c'est machin. Mais la récompense, eh ben, c'est quoi ? C'est pas forcément une victoire. La récompense, c'est un enfant qui progresse, qui va au-delà de ses limites. Et ça, ça lui permet une chose, c'est de se fortifier, de se muscler, on va dire, aussi bien physiquement qu'intellectuellement, et de comprendre qu'il peut faire des choses. Et ça, c'est l'éducation, c'est l'école de la vie. Et c'est là où le sport, ça sert à quelque chose.
Et sur Carpentras, il y a combien d'associations sportives au total ?
Alors en tout, il doit y en avoir, je pense, au dernier recensement, il y en avait 65.
Mais et toutes ne sont pas affiliées à l'OMS.
Non,
c'est pas une obligation.
Non, c'est pas une obligation du tout. C'est un choix. Alors c'est pour ça que ce qu'on a fait comme politique depuis 3 ans, c'est aussi que ça devient non pas une nécessité, mais qu'on vienne par plaisir à l'OMS. Parce que ça sert à rien de déposer un chèque représentant une cotisation si on n'a rien en retour.
Et quelle est justement la plus-value d'adhérer à l'OMS ?
Alors, nous, on a mis en place, donc effectivement, on met en place certains programmes comme la mise à disposition d'éducateurs sportifs, mais ça, c'est la mairie qui nous a donné cette mission. Mais nous avons aussi des services particuliers d'aide justement au développement au travers de tout ce qui peut être ordonnancement de dossiers de subvention, de dossiers techniques. On fait aussi, on met aussi en place, eh bien, tout simplement du matériel au service des associations. Et depuis octobre, on a une flotte de minibus qui nous a déjà permis, on l'a chiffré, hein, qui a permis au club carpentracien d'économiser 9000 euros depuis sa mise en place.
C'est énorme. Et qui sont de bonne qualité.
Oui.
Pour les avoir testés, on est allé en dessous de Bordeaux avec, et ben c'était super.
Voilà. Ah ouais.
Ça a été très utile.
Combien de minibus? On en a deux et on va essayer, si on est en train de regarder, parce que c'est aussi une gestion financière fine, pour essayer d'en avoir un plus grand l'année prochaine. Un troisième, et je vous garantis qu'on arrivera à le placer. Parce que aujourd'hui, on a même du mal. On fait un entretien drastique dessus. On a du mal à le caser.
Ah oui, bah tant mieux. Ça prouve que les clubs ont vraiment
un vrai besoin.
Tu en avais déjà parlé la fois. Là, tu vois, vous avez bien calculé.
Et après, il y a le relais. C'est-à-dire qu'on relaie des politiques nationales. Et puis surtout, on essaie d'informer les clubs. Par exemple, le sport santé. Mmh. Au début, on a commencé avec on avait des prestataires extérieurs. Et petit à petit, on est en train de recentrer ça sur des clubs carpentraciens. Pour qu'ils puissent effectivement, ça fait partie aussi du développement, d'un développement financier. Faut être clair. Il faut trouver de nouvelles ressources et aussi de trouver de nouveaux viviers d'adhérents. Parce que il y a la compétition, il y a le loisir, et maintenant on pourrait dire presque dans certains cas, il y a la rééducation. Réapprendre à quelqu'un à marcher, c'est une chose pas forcément fonctionnelle. Simplement à marcher 10 minutes par jour. C'est tout simple. On peut pas savoir à quel point ça peut devenir compliqué.
Ah ben ça c'est vrai que c'est pas évident, et en même temps il faut vraiment on va dire avoir des personnes qui s'occupent de tout ça justement, parce que c'est bien beau de dire on va apprendre à marcher à une personne, mais si il y a pas le suivi, il y a pas la compétence,
on va prendre un exemple. On a mis en place le système de service civique. Ce sont des jeunes de 18 à 25 ans qui peuvent intégrer les clubs dans des missions spécifiques. Bon, parmi ces services civiques, on a développé, aujourd'hui, on va dire, la majorité sont souvent des étudiants de STAPS. Pourquoi ? Parce que ça leur permet d'eux. Et ça leur permet surtout d'appréhender peut-être le futur métier où ils vont aller. Et on a eu de très bonnes, on a eu de très bons résultats avec certains qui ont complété leur formation et qui aujourd'hui vont passer l'APA. C'est-à-dire qu'ils vont aller vers une frange de population dont ils n'avaient absolument pas idée. Et je prendrai un exemple type, j'avais un jeune homme qui avait par exemple peur des personnes handicapées. Il n'en avait jamais vu. Mmh. On l'a mis, on va dire, on a aidé le club handisport à organiser le Boccia Tour. Il était obligé. Et aujourd'hui, il a fini son service civique. Et il vient aider le club.
Ah oui, mais justement, c'est bien, c'est une école de la vie.
Voilà, il a compris, il a appréhendé, il a chassé ses peurs. Et aujourd'hui, il a une vision réelle de ce qu'il veut faire par la suite.
Vous avez combien d'emplois civiques ?
On en a aujourd'hui. On a une possibilité de 30, et en moyenne, on est entre 22 et 25. Parce que ce sont des missions qui varient de 6 à 12 mois, 6, 8, 10 ou 12.
Donc ils sont mis à disposition des clubs qui en font la demande ?
Tout à fait.
Et pour en venir justement au niveau des clubs, donc on sait que les clubs sont aidés financièrement par les municipalités sous forme de subventions. Vous participez, vous, à l'élaboration des critères justement d'attribution des subventions ?
Sur demande, ça dépend effectivement de chaque OMS.
Et à Carpentras ?
Pour le moment, non.
Non ?
Non. Auparavant, oui, mais ça fait à peu près 6-7 ans où c'est plus le cas.
C'est plus le cas ?
Je voulais moi savoir si au niveau de l'OMS vous pouvez être à l'origine de projets. Par exemple, je vais prendre un projet qui me tiendrait à cœur, c'est à Carpentras de voir un complexe nautique, une piscine, des bassins. Tu parlais tout à l'heure du sport santé, justement en milieu aquatique, ça se développe de plus en plus.
Est déjà à bloc.
Voilà. Mais une piscine ludique aussi avec des bassins.
On parle au président du club des nageurs aussi. Hein,
oui, non, mais je sais.
Lui, il est pour. Hein.
C'est important parce que Carpentras, c'est quand même un bassin de population énorme avec tous les villages qu'il y a autour. Et je pense que on pourrait placer un super complexe sportif avec la santé au cœur de ça aussi. La santé.
Alors, ce qui s'est passé, il y a une histoire par rapport à ça, c'est que effectivement. la partie infrastructure a été confiée, on va dire recommandation. On est bien d'accord, c'est une recommandation, a été placée à l'époque, ça fait 10 ans, dans les attributions de l'OIS. Nous, l'OMS de Carpentras n'a pas à... Voilà, nous travaillons même pas sur l'occupation. Parce que justement, la problématique, c'est qu'il pouvait y avoir une sorte de confusion avec le service des sports. Il n'y en a pas. Et je prendrai la ville de la Seyne-sur-Mer, où là, par exemple, c'est... De la ville de Toulon, pardon, où c'est l'office sport. Et là, par contre, eux, ils font les deux. C'est un mélange. C'est une espèce de d'ornithorynx, parce qu'il y a le service des sports et l'OMS mélangé.
Ouais, c'est compliqué. Hein.
C'est sportif, dans tout le sens du terme, en termes de
gestion. C'est légal ou pas? Parce que, comme on disait, ça peut être associé avec la gestion de fées, association paramunicipale, c'est compliqué tout ça quand même.
En fait, tant que...
On est sur le fil du rasoir.
Exactement. Parce que c'est une espèce d'hydre à deux têtes, et c'est très très compliqué, mais c'est dû à un historique. Mais c'est vrai que pour toutes ces infrastructures, c'est plutôt les OIS qui étaient... C'était dans leur ADN. Mais, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'OIS disparaissent parce que les communautés d'agglos ne prennent pas la compétence au sport. C'est comme ça, c'est la règle. S'ils la prennent pas, à un moment, ça fait des sortes de, on va dire, de bourgeons morts sur la branche des OMS, des OCS. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit des OIS disparaître.
Tu vois, donc pour l'instant, ton complexe sportif, il faut attendre un petit peu.
Non, après, le nageur que je suis est toujours très ouvert à des discussions.
Ben voilà, donc...
Bon, moi je le verrais bien, quoi, sur Carpentras, un truc, bon. Voilà.
Mais par contre, même si l'Office municipal des sports de Carpentras n'a pas compétence justement pour élaborer ce type de projet, hein, comme disait Régis, c'est l'Office intercommunal des sports, n'empêche que l'Office municipal des sports est très... très active sur le territoire de Carpentras. On fait une petite pause, et puis tu as dû entendre parler de la Carpentras Night Fever.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
T'as couru, non?
Non, j'ai pas couru.
Eh ben, on va faire un petit
bilan. J'y étais même pas cette année.
Eh ben, on va faire un petit bilan juste après cette petite pause musicale.
I want you to know that I was wrong. I know.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, donc de retour dans le studio pour la dernière partie de l'émission. Et oui, l'émission va bientôt se terminer. C'est toujours trop court, hein. C'est vrai qu'on a tellement de choses à se dire, surtout avec Régis, qui est un habitué du studio, et on est vraiment ravis de l'avoir toujours, parce que c'est un puits de science. Non, mais ouais, je dis pas ça parce qu'il est là, hein.
Non.
Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de le recevoir.
Ouais, même je dis si parce qu'il est là. Pense,
mais non, on mais le
bon,
pense.
C'est quelque chose, hein, qu'on pense, bon, c'est tout.
Bon, Régis, faut qu'on se voie après, faut qu'on négocie.
Tu nous donneras un peu le chèque.
Voilà. C'est ça. Donc, a eu lieu la Capatra Night Fever, c'était fin avril, elle a été reportée pour des conditions météo, c'est ça?
Oui, parce qu'effectivement, cette année, on avait une grosse modification, c'est-à-dire que l'arrivée départ se faisait sur la place de la mairie, qui a été refaite intégralement, et malheureusement, quand il pleut, c'est très glissant et dangereux.
Et oui, parce que...
Et en fin mars, il tombait des cordes.
Mais oui, mais oui.
Donc elle a eu lieu...
Fin avril.
29 avril
30.
30
Ah non, pardon, excuse-moi, 30, tu as raison, c'est 29.
29 avril. Combien de participants?
On a eu 42 équipes, donc ce qui a fait 84 participants pour cette nouvelle édition. Mmh. On est loin de ce qu'on voulait, hein, mais c'est vrai que la difficulté, c'est que plus on s'avance dans le calendrier, et plus il y a de courses.
Mmh.
Puisque là, on était pourtant pendant le week-end du 1er mai.
Bah, il y avait ça aussi, hein.
Non, parce qu'il y avait 4 courses en même temps.
C'est énorme.
Donc, nous, on a dû courir, parce que il faut savoir que quand la première a été reportée, il a fallu refaire tout à zéro. Voilà. Alors, si vous aimez la paperasse, n'hésitez pas à organiser une course.
C'est ça, oui. Et le bilan?
Bah, le bilan est plutôt positif dans le sens où les gens qui sont venus sont très contents, étaient vraiment heureux. Ça s'est vraiment bien passé. C'était même plus rapide que d'habitude. On s'est aperçu du potentiel de la place, d'ailleurs, qui est réutilisé, puisque l'implantation qu'on avait mis en place, elle est réutilisée pour des manifestations. Et on s'est aperçu aussi que on a validé un nouveau parcours qui permet justement d'éviter des complications, par exemple, puisque nous avons la course est précédée par une course handisport. Et surtout, ça on a été surpris, c'est en discutant avec ceux qui ont gagné et ceux qui sont des vrais coureurs, disons des coureurs pour des pros, quoi, parce qu'on en avait deux, et ils nous ont expliqué que le parcours qui existait était particulier parce qu'il était extrêmement tendu. Ils demandent de la relance en permanence.
Pourquoi?
Parce que en fait, le fait que nous descendions, nous remontions certaines rues assez pentues de Carpentras, on est obligé, dirons-nous, de gérer la course. Sinon, très rapidement,
on s'épuise.
On va avoir de gros soucis. Donc, c'est une course très technique. Et ça, on n'avait pas envisagé de cette façon-là.
Et au niveau des nouveautés, donc tu parlais des courses Andy, c'était avec des jouelettes, c'est ça?
Oui, cette année des
jouelettes. Il y en avait combien?
On avions 3 jouelettes, entre autres. Et par contre, ce qui était important, c'est que cette année, on a fait quelque chose de tout nouveau, c'est qu'avant le départ des courses, on a fait un échauffement musique. Wow. À côté de l'aspect ludique, c'est aussi un aspect technique, puisque c'était Marie-Pierre Milesi, vice-présidente de l'OMS, qui le faisait. Et ça donne de la bonne humeur, mais surtout, ça limitait toute possibilité de blessure et de claquage.
C'est bien ça. Pour ça, tout le monde s'échauffe en même temps.
Oui.
Ça a renouvelé alors?
Ah mais ça sera renouvelé et gardé. Ça, c'est validé. Le parcours tel quel aujourd'hui, sauf s'il y a encore des prescriptions Vigipirate supplémentaires, mais je pense pas, parce que là, je vois pas où je les ferai passer, les coureurs. Et effectivement, le fait de partir et d'arriver de la place de la mairie.
Donc ça, on est sûr que l'an prochain, il y aura une nouvelle édition?
Voilà. Il va y avoir, par contre, une discussion sur ce qu'on appelle le modèle. À savoir, 3, parce que c'est une course en relais, 3 en relais ou 2 en relais.
Alors, je sais que beaucoup de personnes nous disent ça serait bien si on pouvait revenir à 3.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on va essayer. On est en train de discuter avec notre chronométreur pour trouver une solution technique, pour savoir si c'est bien faisable. Mmh. Peut-être d'avoir les deux formats. Comme ça, on pourra faire un choix. Parce que c'est vrai que c'est une course qui est en pleine évolution. Elle s'est déplacée. Elle se déplace au niveau du public aussi. Puisque ça a eu aussi un avantage, qui est un avantage qui est, on va dire, collatéral. Mais c'est pas un risque, là. C'est plutôt un bonheur. C'est l'économie. Dans le sens où on est en train de regarder sur la date, parce que tous les bars étaient ouverts autour, tout le monde a travaillé, les gens étaient contents d'être là, et beaucoup sont restés après.
Donc c'est une fête municipale après?
Et oui, ça c'est sympa, parce que ça peut être, on va dire, la course du sport, et puis surtout de la découverte de la ville la nuit.
Et puis, pour organiser un tel événement, il faut faire appel à de nombreux bénévoles, non?
Ah oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette année, on a vu quelque chose de tout nouveau. C'est-à-dire que quasiment les clubs avaient des spécificités. Voilà, on va dire le BMX, lui, fait l'ouverture et la fermeture de la course. Les ASPTT travaillent sur les signaleurs. L'UAC aussi travaille sur les signaleurs. Le club des nageurs sur les inscriptions. Et donc, ça permet véritablement d'avoir des clubs qui se connaissent pas, mais qui travaillent en complémentarité.
Ben écoute, en tout cas, c'est un très très beau mot de la fin. Donc, on sait que l'an prochain, il y aura une nouvelle Carpentras Night Fever. Je pense que c'est la seule en Vaucluse, non ?
On est là, avant il y avait une autre course, effectivement, on est la dernière course nocturne.
Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup Régis d'être donné l'air, donc président de l'OMS et président régional des OMS PACA, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, ben, merci beaucoup Valérie. Merci mon petit Alexandre.
Merci à toi.
On dira un gros mot pour ce week-end.
C'est ça, et on vous dira tout donc lundi prochain, et on espère se qualifier.
Voilà, un événement qui aura lieu ce week-end, hein, c'est pour justement, c'est organisé par le Rotary Club de Carpentras, c'est pour la bonne cause, donc rendez-vous au marché gare samedi et dimanche, il y aura des baptêmes en voiture sportive. Allez, bonne semaine sportive à tous et à toutes, et à la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Bonne soirée.